Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Bénédicte Bonzi autour de son livre « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires » paru aux éditions du Seuil, le 7 avril 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Ce soir, on a la chance d'entendre Bénédicte Bonzi qui vient nous présenter son livre qui vient de sortir dans la collection Anthropocène au Seuil, qui s'appelle « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Et bon, comme ça va être présenté, c'est une enquête anthropologique sur les dispositifs d'aide alimentaire. Et la rencontre va être modérée par Alexandre Gondran, qui fait partie du collectif Caisse Alim Toulouse, qui expérimente la mise en place de sécurité sociale de l'alimentation sur Toulouse. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour à tous. Donc Alexandre Gondran, donc qui fait partie d'un collectif d'expérimentation. Bon, on en reparlera peut-être un peu plus sur la fin. Donc déjà, je suis très content d'être là. Et très content d'avoir pu lire le bouquin de Bénédicte Bonzi, parce que c'est un travail vraiment que j'ai trouvé remarquable. En fait, Bénédicte a fait donc un vrai travail d'enquête. Elle a fait pendant 5 ans, elle a suivi les camions du Restons du Cœur dans le 93, et elle a fait donc sa thèse de doctorat à l'école des hautes études. Hautes études en sciences sociales à EHSS, donc elle a soutenu en 2019. Et donc, en fait, cette version-là, c'est un petit peu la version digérée, en fait, hein, pour le grand public de cette thèse qu'elle a fait sous la direction de Brigitte Müller. Et son titre était la fin de droit. Le don à l'épreuve de violences alimentaires. Et donc, elle introduit cette notion de violence alimentaire, dont on va pouvoir un petit peu parler, qui est... En fait, c'est le genre de concept qui paraît complètement évident une fois qu'on l'a défini. Mais avant d'être défini, je crois que c'est donc toi qui l'a posé. Et donc, ça me faisait cette notion de violence alimentaire. Elle est un peu au départ. Voilà. C'est-à-dire que l'alimentation pour moi, c'est quelque chose de plutôt un plaisir. C'est plutôt une joie, une fête. Et un partage, voire plus dans le pays de la nourriture, de la bonne bouffe, quoi. Et donc là, c'est un peu, ça nous reprend un petit peu à contre-pied, c'est de pas poser ça comme une violence. Alors évidemment, c'est pas forcément les mêmes qui subissent cette violence. Hein, c'est vraiment quelque chose de. Mais ce côté, moi, ça m'avait fait penser cette inversion au bouquin de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui avait posé la violence des riches il y a quelques années. Et donc là, qui inversait en fait la vision. Et donc, voilà. Donc, c'était. Donc, tu vas nous détailler donc cette notion de violence. Quelles sont-elles et comment elles s'exercent, sur qui elles s'exercent et quel est le système. Et peut-être qu'avant de parler vraiment de violence, peut-être qu'un. Tu vas peut-être nous expliquer pourquoi. Tu en es arrivé là, à faire cette enquête auprès des cette enquête de terrain auprès des Restos du Cœur. Et qu'est-ce qui a motivé ça? Et l'idée, c'est que Bénédicte fasse on discute une 45 minutes, et ensuite on vous laisse la parole pour des questions auxquelles elle répondra si elle le peut.
Alors bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation de la librairie. Je suis très contente d'être ici. Et puis c'est juste la deuxième fois que j'ai l'occasion de présenter le livre. Et c'est à Toulouse, donc c'est très bien comme ça. Un lieu qui va certainement faire partie des premiers à expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est encore plus agréable de venir dans un lieu où je peux avoir une ouverture à ce sujet un peu plombant que sont les violences alimentaires, en ouvrant en fait sur, oui, il y a des violences, mais il y a aussi des réponses et un beau projet politique à mettre en face. Donc moi, au départ, j'ai repris mes études d'anthropologie assez tard, et mon premier terrain de recherche était le Kurdistan irakien. Et donc je travaillais là-bas sur la question de comprendre qu'est-ce qui s'était passé au Kurdistan irakien, puisqu'ils avaient perdu leur autonomie alimentaire au moment où ils gagnaient une forme d'autonomie politique. Et donc j'ai fait du terrain là-bas pour mon master, pour ma licence, et puis pendant mon dernier terrain, Daesh a attaqué et je n'ai plus voulu y retourner. Et en parallèle de ça, comme avant de reprendre les études, j'étais éducatrice spécialisée, eh bien, je faisais des enquêtes de terrain en France sur différents lieux de distribution alimentaire. J'avais été dans une épicerie sociale du Secours catholique et puis j'avais attaqué un petit terrain avec les Restos du Cœur de la ville où j'habite. Et puis, quand est venu le moment de se dire est-ce que je présente un projet de recherche pour faire une thèse ou pas, comment je fais ? Eh bien, du coup, l'Irak, c'était non. Et je me suis dit, mais en fin de compte, tout ce que j'ai toujours présenté à mes collègues, même quand j'en parle à mes amis, au niveau de ce qui se passe et comment ça se passe, l'aide alimentaire en France, eh bien, ça étonne, ça surprend. Et finalement, on ne connaît pas si bien que ça. Et même moi, je me rendais compte que j'étais pleine d'a priori et que j'avais besoin de déconstruire ce que je pensais savoir de l'aide alimentaire pour mieux comprendre comment elle fonctionnait et qu'est-ce qui s'y passait. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'être accueillie par les Restos du Cœur, les maraudes des Restos du Cœur du 93, et de pouvoir parcourir le territoire à leur côté. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait dans ce qu'on appelle la recherche-action. C'est-à-dire que je n'ai pas enquêté sur les Restos du Cœur, mais j'ai fait un travail avec les bénévoles du Restos du Cœur où on partageait énormément de questions, énormément de tensions, énormément de moments en fait avec eux où j'étais vraiment embarquée dans ces distributions. J'étais aussi sur deux lieux de distribution, un centre, toujours dans le 93, et un autre dans le sud-est de la France, pour pouvoir comparer comment ça se passe en milieu urbain et comment ça se passe en milieu rural. Donc le livre, il est nourri de ce temps passé avec les bénévoles des Restos du Cœur. Et du coup, je tiens vraiment à le préciser, il n'est en aucun cas une critique du bénévolat ou d'aucune structure d'aide alimentaire, parce que je vous disais qu'au départ, j'étais pleine d'a priori. Eh bien, ce que les bénévoles sont venus m'apporter, ce que j'ai compris au fil de mon terrain, c'était que ce que moi, je connaissais du monde agricole, qu'on appelle la résistance paysanne, l'économie morale et toutes ces belles valeurs, en fait, elles vivaient aussi d'un autre côté de la chaîne, au niveau de l'aide alimentaire, où là aussi, à travers le don alimentaire, il se passait une économie incroyable de création de valeurs et de richesses en créant un tissu social très très fort et en empêchant que les personnes ne dégringolent plus au niveau des situations dans lesquelles elles se trouvaient. Donc c'était pour moi en tout cas très c'est quelque chose aussi d'important à souligner, c'est qu'en effet quand on s'attaque à l'aide alimentaire, c'est pas évident. Parce que c'est dans les représentations, tout le monde, quand on est dans le don, on fait le bien. On est un petit peu dans ce résumé-là. Et ce n'est pas facile, en fait, de donner. Et ce n'est pas facile de faire le bien. Et ça, on s'en rend compte au fil des jours que si on est fatigué, on le fait moins bien que quand on est en forme. Qu'il y a plein de, il y a plein de situations qui nécessitent de comprendre qu'est-ce qui se passe et quels sont les enjeux réels à travers le don de nourriture et de pouvoir prendre un peu de hauteur et de se dire mais en fait, ça veut dire quoi d'avoir besoin de donner de la nourriture dans un pays qui en produit en abondance et qui jette des milliards de tonnes. Comment on en est arrivé là? Et du coup, ce livre est une vraie critique pour le coup du système capitaliste et de la structuration de la politique alimentaire qui ne permet pas à tout le monde de se nourrir comme il le devrait et qui, du coup, s'oppose complètement à ce que devrait être et pourrait être le droit à l'alimentation.
Alors, justement, c'est vraiment le... D'ailleurs, c'était posé comme ça dès 86. Avec Coluche, il posait ça vraiment comme une redistribution plutôt que de la charité. Il opposait ça dès le départ. Et c'est vrai que le rêve, c'est qu'on ne parle plus d'aide alimentaire, mais qu'on parle que de droit alimentaire. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le cas d'ailleurs effectif en France, pour l'éducation ou pour la santé, on ne dit pas je fais de l'aide à l'éducation ou je fais de l'aide à la santé. On fait... parce qu'on a reconnu un droit à la santé, et ça nous paraît évident, ou un droit à l'éducation. Et donc, on est passé à un autre stade. Et on n'est pas on se dit pas « Ah, je suis en train, quand j'amène mon enfant à l'école, je ne suis pas en train de dire « Ah, j'aide mon voisin qui a moins d'argent que moi ». Non, quoi, on est vraiment dans un truc, c'est posé comme un droit. Et l'idée de l'alimentation, de le passer en droit, alors tu pourras peut-être nous expliquer que dans les textes, c'est reconnu comme il y a des textes où on reconnaît ça comme un droit à l'alimentation, mais que ce droit, en fait, il n'est pas reconnu. C'est un droit qui n'est pas. Et tout l'enjeu, c'est de transformer cette aide, la transformer en un droit. Alors c'est un gros boulot, quoi. Parce que derrière ça. Il y a des rapports de force, il y a beaucoup de choses. Et peut-être que tu pourras peut-être nous parler de cet aspect-là.
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est intéressant quand même de revenir à l'origine des restos. En 85, Coluche, il se dit... il a cette phrase que moi, je trouve très forte. C'est quand même pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qui n'aient pas à bouffer. Et je trouve que cette indignation, cette espèce d'appel ou de prise de conscience, elle est assez simple. Et aujourd'hui, on en vient à un état où c'est devenu normal qu'il y en ait qui n'est pas assez. Et il y a les associations. Et en plus, on leur met la pression à ces associations. On dit, vous devez faire mieux, vous devez faire plus. Il y a plus de personnes, débrouillez-vous avec les produits qui viennent des ramasses, etc. Donc, on met, par rapport à la manière dont les choses ont démarré, on met beaucoup plus de pression sur les structures. Par exemple, quand Coluche crée les Restos du Cœur, on n'a pas besoin d'inscrire les gens, on n'a pas besoin de faire de dossier, on est sur une aide inconditionnelle. Les gens viennent et ils repartent avec un sac et il ne faut pas, pour Coluche, il ne faut pas qu'on se rende compte qu'ils sont passés au Resto du Cœur, dans un souci de dignité. Il faut qu'on ait l'impression qu'ils soient sortis de prison. Et donc tout ça, c'est quand même très important. Ça porte aussi les restos au départ. Et finalement, ce qui se passe dans la structuration de l'aide alimentaire, c'est que petit à petit, au fur et à mesure de choc, on accepte des choses qui n'auraient pas été acceptables à la création des restos ou au moment où on imagine sortir les gens de la pauvreté, parce que c'est bien ça. Les Restos du Cœur étaient là pour venir... Ils n'intervenaient que l'hiver et c'était pour aider à payer la facture énergétique. Ce n'était pas du tout censé durer sur des étendues aussi larges que maintenant, alors que maintenant, les structures des restos ne peuvent plus fermer et on a campagne d'hiver, campagne d'été sans pause. Donc il faut trouver des bénévoles en permanence et ça pose de nouvelles questions. Et donc ce rapport de force qu'a institué Coluche, on le retrouve vraiment dans la manière d'agir des bénévoles. Globalement, en fait, ils disent, et ça m'a été répété plein de fois, nous, de toute façon, on fait pas de la politique avec nos bouches, on les fait avec nos mains et on agit. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se figurer que vous, peut-être vous avez travaillé dans la... Dans l'alimentation, c'est des fonctions, des rôles où on a beaucoup besoin de son corps, on porte beaucoup, on est beaucoup en train de se baisser, de prendre, etc. Et donc les bénévoles, physiquement, ils sont très engagés pendant les distributions et à tous les moments de l'action de l'aide alimentaire, parce qu'il y a les distributions, mais peut-être que là où le corps est encore plus engagé, c'est dans le tri et dans tout ce qui va... et ça c'est un moment important aussi, tout ce qui va constituer en fait les produits qu'on donne. Donc dans le cadre de l'aide alimentaire, il y a plusieurs sources d'approvisionnement. Il y en a une qui vient de l'Europe, sur laquelle on n'a pas trop la main. L'État français, il fait le choix de redistribuer en denrées. Donc on passe par des appels d'offres et des gros marchés au niveau européen qui arrivent en France en denrées. C'est comme ça que vous avez pu avoir le scandale du poulet gonflé à l'eau ou les steaks hachés qui contenaient de tout sauf de la viande. Voilà, c'est grâce à ces méga appels d'offres au niveau européen qui du coup permettent pas d'assurer des produits d'une qualité normale, je sais pas quel mot il faut employer, enfin les produits qu'on devrait avoir quoi. Et donc voilà pour ce qui donc et ça c'est une petite part, j'ai plus exactement en tête mais ça a dû changer là les parts depuis le travail d'enquête, mais ça représentait sur une année à peu près 200 euros par personne, donc c'est pas non plus ce qui permet à la personne de se nourrir toute l'année. Il y a un gros dans les approvisionnements, il y a ensuite les collectes. Là, vous y participez certainement dans les supermarchés. Il y a ces grosses collectes alimentaires qui permettent que chacun, chacune, on choisisse et on puisse donner des produits selon nos moyens. Et c'est vraiment du don parce que pour certains, des fois, c'est leur panier de course qu'ils déposent à la fin de leur course en se disant, si cette semaine-là, je donne au resto, c'est du budget que je n'ai pas pour moi, mais c'est vraiment un don. Et ces collectes, elles sont vraiment importantes parce qu'elles vont permettre de constituer un stock qui n'est pas négligeable. Et parfois même, il faut en relancer d'autres au cours de l'année quand il n'y a plus assez de nourriture. Ensuite, il y a des gros dons qui peuvent venir... d'associations. Par exemple, le Téléthon, à la fin de son action, il peut avoir trop commandé de nourriture et il va faire des gros dons au resto ou à d'autres structures, ce qui est toujours bienvenu parce que c'est des produits qui ne sont pas périmés, qui sont tout à fait corrects et qui vont pouvoir être partagés avec ceux qui en ont besoin. Et puis, il y a une dernière façon de je trouve pas le mot exact, mais dans les sources d'approvisionnement, donc il y a aussi ce qu'on appelle les ramasses, qui sont la récupération des invendus. Au départ, moi, quand j'ai attaqué tout ce travail là, la récupération d'invendus, c'était un petit peu un plus C'est-à-dire on avait de quoi constituer le panier avec les trois premières sources dont je vous ai parlé. Et grâce au ramasse, on pouvait donner du plus à la personne pour qu'en effet, eh ben, elle améliore la quantité de nourriture qu'elle a pour la semaine. Parce qu'il faut aussi savoir que quand on a besoin de l'aide alimentaire et qu'on se retrouve dans un centre de distribution, c'est qu'au niveau, puisque maintenant l'aide est conditionnelle, c'est qu'on a un reste à vivre qui ne nous permet pas du coup d'acheter de la nourriture, mais qui fait que quand on se retrouve là, on va avoir besoin de demander ailleurs parce que selon les centres, hein, après faut pas généraliser, mais c'est souvent 6 repas qui sont distribués et c'est pas pour l'ensemble de la semaine. Donc il y a plein de personnes qui font durer cette distribution sur l'ensemble de la semaine, donc elles ne mangent pas à leur faim, clairement. Et il y a d'autres personnes qui ont d'autres moyens et qui vont encore ailleurs pour pouvoir compléter et avoir suffisamment à manger. Donc cette ramasse, elle avait ce rôle-là de permettre d'avoir parfois un petit peu plus que ce panier qui était proposé. Et les ramasses ont beaucoup changé avec la mise en application de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, la loi Garot, qui a été pensée par des personnes qui, à mon avis, mangent à leur faim dans des bureaux et qui se sont dit « Ah bah tiens, on jette trop de trucs, dans l'aide alimentaire, ils n'en ont pas assez, donc on va flécher sur les structures de l'aide alimentaire pour qu'elles utilisent les produits en trop dans les magasins. » Et les magasins, ils se sont dit, ben bingo, en fait. Nous, on va mettre la pression pour avoir une convention qui nous arrange et on va utiliser l'aide alimentaire pour finalement faire ce qu'on n'aura plus à faire. Puisqu'avant, la destruction de denrées dans les supermarchés, eh bien, ça leur coûtait de l'argent. Et aujourd'hui, ils obtiennent une défiscalisation parce qu'ils ont fait un don généreux à une association. Et ça, en fait, ça fait partie des choses qui ont réduit les plus au niveau de l'aide alimentaire, qui sont venus grossir artificiellement des chiffres, parce qu'on parle toujours en tonnage, mais en fait, si dans le don, j'ai que des viennoiseries et du pain, j'exagère, hein, mais du coup, bah, je ne fais pas un repas équilibré. Donc après, quand Carrefour dit « j'ai donné, lui, il convertit 7 tonnes en nombre de repas », c'est faux. En fait, il faudrait savoir quels sont les aliments qui sont véritablement donnés. Et du coup, pour les structures et pour les bénévoles, ça change aussi la donne parce que les supermarchés ont obtenu le droit de vendre à prix cassé jusqu'à la fin. Donc, les produits qu'ils récupèrent, eux, dans la ramasse, c'est souvent des produits qui périment le jour même ou la veille. Alors que dans la loi, il faudrait normalement 2 jours de battement. Et les associations avec lesquelles moi j'ai échangé disent en fait, non, on ne dit rien parce que nous, avec ces conventions, on est mis en concurrence sur le terrain. Donc si nous, on se plaint, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Et après, ce plus, il n'est pas satisfaisant. Mais si je n'ai pas ce plus, en fait, je n'ai vraiment pas grand-chose à distribuer aux personnes parce que derrière, la file d'attente, elle ne cesse d'augmenter et de grossir. Donc, du rapport de force initié par Coluche, on se dit 2 choses. On se dit que Coluche manque par la manière dont il pourrait traiter les choses et faire évoluer les choses, et que c'est extrêmement difficile de maintenir ce rapport de force et d'arriver même, je pense, à se dire qu'on est toujours dans un rapport de force. Alors que si, je pense qu'on est toujours dans un rapport de force parce que les personnes, elles ne sont pas du tout au service de l'État, où elles ne sont pas du tout en train de se dire « moi, je fais ça pour lutter contre le gaspillage alimentaire ». Non, non. Elles sont toujours bien dans leur axe, c'est-à-dire « je crée du lien avec l'autre, avec les produits que j'ai, et je charge ces produits de valeur ». Et pour en finir sur cette question du gaspillage alimentaire, je pense que c'est vraiment un moment très impressionnant, en tout cas pour moi, ça l'a été, de la ramasse, de voir justement les bénévoles le dos courbé dans les caisses de fruits et de légumes, faire en sorte en fait que les fruits et les légumes qui après seront répartis soient beaux et donnent envie aux personnes d'être choisies. Et en se disant, non, il faut que la caisse ressemble à ce que moi j'aurais envie de trouver. Donc du coup, je vais la transformer et du coup, cette nourriture, elle est chargée de cette envie de rendre justice à l'autre et de le considérer autrement.
Alors, c'est quasiment un hommage que vous rendez aux bénévoles. Hein. Comment, en fait, ils sont mis dans des situations qui les dépassent et comment, en fait, le don, il redonne de la dignité au don. En fait, et là, le fait de choisir de parmi les pommes pourries ou les parce que donner des pommes pourries, bah, c'est encore plus, quoi, c'est la négation de tout leur engagement. Donc là, c'est quelque chose de vraiment donc c'est vraiment bien documenté même sur toute l'histoire du don. Même là, mmh. Vous revenez un petit peu sur tout ce qui a été notamment. Quoi, le contre-don que nécessite un don, et ça c'est une chose assez intéressante. Et sur la marchandisation, quoi, c'est-à-dire que le fait que ce soit devenu un marché de la faim,
oui.
Là-dessus, c'est vrai que ça c'est venu par une quoi, c'est venu peu à peu, mais c'est venu notamment par une loi. Donc, qui n'était pas forcément faite dans ce sens-là, mais ça veut dire aussi qu'une loi peut amener autre chose, pourrait amener quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ce que montre Bénédicte dans ce livre, c'est notamment aussi toute l'histoire, comment là elle donnait comment était structuré le don actuellement, mais à l'époque de Coluche en 86, c'était les excédents alimentaires qui étaient rachetés par la PAC. Et donc on a un peu, elle raconte un peu toute l'histoire de ce glissement via les différentes lois, via les différentes transformations de la PAC, et donc comment peu à peu le marché, comment ça s'est marchandisé, en fait. Comment le marché a mis... le capitalisme a récupéré la solidarité, quoi. Et comment... voilà, toujours. Hein, voilà, c'est exactement ça, en disant que c'est une réappropriation assez... en créant des marchés, donc faisant le faux équilibre entre gaspillage et... comme si c'était un marché qui allait équilibrer le gaspillage avec le fait de ne pas manger à sa faim. Alors peut-être historiquement, ce contrôle de l'alimentation, c'est un truc qu'on retrouve un petit peu partout. Celui qui contrôle l'aide alimentaire, que ce soit... je sais plus, c'était Adolphe Thiers, je crois, qui disait que... qu'il fallait reprendre l'aide alimentaire qui était faite à l'époque par l'Église catholique. Et donc, toute l'idée, c'était que celui qui va contrôler l'aide alimentaire, en fait, a un pouvoir, un rapport de force, en tout cas, très important sur la société. Et que, voilà, et que c'est ce que tu disais, c'est que on a peu à peu, ça s'est transformé d'une lutte d'une éradication de la pauvreté à en fait un outil de maintien de l'ordre social, quoi. Et ça c'est quelque chose qui peu à peu glisse et qui a un peu glissé, qui est peut-être peut-être pour parler maintenant des différentes formes de violence, en partant peut-être du don, tu parles notamment, je te vous vois, je te tutoie, bon, je vous êtes deux de remarques, hein, donc tu parles de don de domination, notamment, c'est ce don qui endette, car on ne peut pas car il ne peut pas être rendu. Peut-être que tu peux nous parler de
Oui, je pense qu'on a tous vécu ces situations-là, même à titre personnel. Donc ça fait écho. Si quelqu'un nous donne quelque chose qu'on ne peut pas rendre, ben on se sent pas bien. On se dit mais en fait, voilà, est-ce que je suis achetée? Quelle est la contrepartie qu'il faudrait que je redonne? Et si on peut pas du tout le faire, et ben ça casse le lien. Et finalement, Marcel Mauss, quand il étudie le don et tout ce qu'il voit, lui, dans les sociétés non monétaires, hein, qu'il étudie, donc c'est encore plus intéressant quand on travaille avec les restos, parce qu'au resto, il n'y a pas d'échange de monnaie. Donc, le don est encore plus important et permettait d'observer aussi beaucoup de choses. Donc lui, il observe ça et il voit vraiment que à travers le don, il y a ce lien qui fait que si on rompt le don, il y a une force qui est vraiment diabolique et qui peut entraîner de la domination, mais qui peut aussi conduire jusqu'à de la guerre, le déclenchement de tensions, etc. Donc le don, il est extrêmement puissant pour faire exister l'autre. Et dans ce qui se passe au niveau de la structuration, si on la regarde vraiment au niveau global, au niveau de ce que l'État, comment l'État pense l'aide alimentaire, on voit que les boucles d'échange, elles ne permettent pas à celui qui reçoit la nourriture, au final, de rendre. C'est-à-dire que le don de nourriture qui est fait par la grande surface, que ce soit Carrefour, Franprix, peu importe, via la défiscalisation, le retour est effectué par l'État. Du coup, moi j'appelle ça un marché de la faim, mais quand on connaît la contrepartie qu'on va avoir, normalement, c'est plus du don, parce que le don nécessite qu'on ne sache pas ce que l'on va nous rendre. Et eux ne donnent que parce qu'ils savent qu'on va leur rendre. Donc c'est quand même très différent. Mais on garde ce flou et on garde cette dénomination, et la loi parle de convention de don. Ce qui nécessite quand même d'être réinterrogé. Donc, pour la personne qui arrive au bout et qui est dite bénéficiaire du don, en fin de compte, elle ne peut pas rendre, puisque le circuit est bouclé. Elle ne pourra rendre que dans l'échange avec le bénévole, que dans cette relation-là. Et c'est pour ça que cette relation est si puissante et qu'elle leur permet, ensemble, de faire beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses et de s'en sortir. Et à ce titre-là, si on regarde de manière un peu froide d'ailleurs ce système-là, on se rend compte que les pauvres sont une variable d'ajustement d'un système qui surproduit. Et finalement, cette surproduction, elle n'est pas neutre. Elle impacte énormément tout le système agricole. Et ça, c'est vraiment le propos des agriculteurs qui disent nous, en fait, pour produire assez, on nous a demandé de produire trop pour entrer dans cette compétition-là. Et donc, ce trop, on essaie d'en faire quelque chose. Mais ce trop, en fait, il appauvrit tout le monde. Il appauvrit les producteurs qui ne peuvent pas vendre le juste prix de leur nourriture. Et il ne permet pas à tout le monde de se nourrir correctement parce que, finalement, on ne donne pas l'accès à la nourriture quand elle est encore bonne. On donne accès via des contreparties au moment où la nourriture, elle est plus aussi fraîche et plus aussi bonne que pour celui qui a les moyens économiques de faire ses choix.
Oui, tu fais des distinctions entre les différentes formes de dons. C'est vrai que le don clic, le don monétaire où on est en fait défiscalisé de notre don, où c'est le contre-don est donné par l'État, ouais. C'est aussi parce qu'à la fin, on ne sait plus comment donner. On se demande, on nous a volé un petit peu notre don, notre façon, notre solidarité. On ne sait plus comment exprimer. Parce que tout a l'air un peu verrouillé. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, c'est bien, mais il y a quand même des contreparties. Et donc, y a cette... on est un peu bloqué en se disant, en fait, on nous a volé la solidarité.
Oui, non, mais et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important à chaque fois de tout nuancer. C'est que ces dons qu'on fait, ils sont très, très importants. Parce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui les moyens de se passer de l'aide alimentaire. C'est aussi pour ça que ce n'est pas une critique de l'aide alimentaire. Et c'est aussi pour ça qu'on aboutit à. Que moi, j'aboutis à une réflexion d'imaginer un autre projet politique et pas une solution. On ne va pas remplacer en fait ce qui se passe dans l'aide alimentaire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si... je pense qu'on aura toujours besoin, en partie, d'aide, parce qu'il faut répondre à l'urgence et que les situations d'urgence, on n'arrivera pas à les évacuer comme ça. Le problème, c'est que cette aide, elle est devenue structurelle et que ce n'est plus une aide d'urgence, c'est devenu le moyen de s'alimenter de millions de personnes. Donc là, il y a réellement un problème. Quand on a travaillé toute sa vie, mais qu'on n'a pas une retraite qui nous permet de faire des courses et de pouvoir choisir ce qu'on mange, c'est quand même... Ça pose question. La situation de la personne, elle ne changera jamais. Ce n'est pas une impasse. Du coup, ce n'est pas une urgence parce que ce n'est pas une maladie ou ce n'est pas la faute de la personne d'être à la retraite ou d'avoir perdu son conjoint. Et ce n'est pas normal que du coup, elle se retrouve dans une telle situation. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs les personnes qui inquiètent le plus aussi les différents dispositifs d'aide alimentaire, hein, pas que les centres de distribution, mais je pense pas mal aux épiceries solidaires qui se disent « Ah ben nous, on est là sur nos contrats de 3 mois renouvelables. » Alors, je cite cet exemple, hein, chacun a un peu son fonctionnement, mais 3 mois renouvelables une fois, donc pas plus de 6 mois sur l'année. Mais comment elle fait la personne les 6 autres mois? Et quand ils savent que la personne, elle n'a pas d'autre recours, ben ça les contrarie de ne pas pouvoir avoir un dispositif plus étendu. Et pour les personnes qui ont bénéficié de l'épicerie solidaire pendant 3 mois, c'est dur de retourner en centre de distribution. C'est dur à nouveau de faire la queue et de ne pas payer pour ce qu'on a, etc. Et en fait, tout ça conduit à peut-être un peu expliciter pourquoi parler de violence alimentaire, pourquoi avoir voulu mettre ces deux mots côte à côte. Au départ, en fait, je ne savais pas trop comment qualifier les choses. J'avais plein de ressentis, j'avais plein de notes, je voyais que c'était violent et j'arrêtais pas de dire « c'est violent, c'est violent ». Et Birgit Müller, ma directrice de recherche, me disait « mais on ne comprend pas ». C'est quoi qui est violent? Tu dois préciser, tu dois préciser. Et du coup, ben, qu'est-ce qui était violent? Beaucoup de choses. Et donc, il fallait aller en finesse regarder à quel moment, quelles étaient les atteintes, comment ça se caractérisait, pour voir de quelle forme de violence, à quelle forme de violence finalement on fait face quand on est au cœur de l'aide alimentaire. Et peut-être que ce qui m'a le plus aidée, c'est une des situations que j'ai vécu. On distribuait donc des... on était dans une tournée avec les maraudes et on arrive en fin de tournée. Et au moment des tournées, on allait à chaque fois récupérer dans des boulangeries qui ne défiscalisent pas forcément les pâtisseries qui restaient. Beaucoup de pâtisseries maghrébines fonctionnent comme ça en région parisienne. Pour eux, le don, c'est important. Et donc, si on leur parlait de reçu fiscal, ils n'en voulaient pas. Donc voilà, je dis ça pour montrer toute la complexité du don et du système et que rien n'est généralisable. Et donc, du coup, on passait dans ces boulangeries et ce soir-là, il restait pas mal de gâteaux. Et donc, pas le même gâteau pour chacun, mais suffisamment de gâteaux pour faire choisir. Et donc, ça crée un peu un esprit de fête pendant la distribution. Les gens sont plutôt contents parce qu'il y a quelque chose en plus et quelque chose qu'ils n'ont pas souvent, et finalement, ils vont pouvoir choisir quand même soit un millefeuille, soit un éclair, soit une tarte, etc. Et moi, je distribue le café et les gâteaux. Et un jeune homme choisit un éclair au chocolat et il prend le temps de poser son éclair, son café et de discuter avec moi. Parce qu'il est certainement content, voilà, ça crée cette autre ambiance. Mais pendant qu'il discute, un autre gars lui vole l'éclair au chocolat. Et là, du coup, bah, la réaction qu'il a, c'est de partir en courant pour chercher une bouteille en verre pour la casser sur la tête de celui qui lui a pris l'éclair. Donc là, je me mets entre les deux parce que je les connais bien, ça fait longtemps et je sais que ça va s'arrêter tout seul. C'est ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que moi, je ressens toute la tension. Et je me dis, ah ouais, en fait... Ce que je fais la plupart du temps, c'est que mon corps, mon action de bénévole, c'est de contenir cette violence. Et 90-95% du temps, ça fonctionne. On contient cette violence qui est là et qui peut exploser pour un vol d'éclair au chocolat, par exemple. Mais pourquoi pas? Parce que c'était une injustice de trop. Et du coup, je me dis, ah, si on la contient, c'est qu'elle préexiste à tout ça. Et si cette violence, elle préexiste à tout ça, d'où vient-elle? Et donc, là, le droit à l'alimentation nous aide beaucoup, puisque finalement, le fait de ne pas répondre aux droits des personnes, c'est bien commettre une violence contre les personnes. Et à partir de là, c'est bien normal que cette violence rejaillisse, puisqu'on doit être dans un état de droit où normalement elle ne devrait pas se retrouver dans ces situations-là. Donc ce que tu disais aussi sur le droit à l'alimentation, c'est qu'en effet, on a un droit international dans lequel est inscrit ce que doit être le droit à l'alimentation. Donc c'est l'accès à une nourriture de qualité, en quantité suffisante, qui corresponde à nos choix culturels et qui aussi respecte l'environnement, donc soit produit dans des conditions durables. Donc il y a toutes ces notions-là qui sont présentes dans le droit à l'alimentation. Et du coup, quand on regarde comment se déclinent les choses, on a beau faire de notre mieux, avec les moyens que l'État concède aux différentes structures pour se charger de l'aide alimentaire à sa place, puisque normalement c'est la mission de l'État, qu'il est délégué aux associations, eh bien ils ne peuvent pas le faire. Donc ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils peuvent. Et donc cette violence institutionnelle d'un État qui refuse de prendre son rôle en charge, bah forcément elle va rejaillir et elle va s'exprimer au sein des structures d'aide alimentaire, quelles qu'elles soient. Que ce soit les restos, le Secours Pop, la Croix-Rouge, les épiceries sociales. En fait, à chaque fois, en fait, on a ces rejaillissements de tensions. Il y a deux choses là-dedans dans ces rejaillissements de tensions. Le premier, c'est que les personnes qui sont les plus revendicatives dans les files de l'aide alimentaire sont celles qu'on voit le moins longtemps. C'est-à-dire qu'elles ont encore la force de se battre, d'exiger autre chose pour elles. Et du coup, c'est très désagréable pour les bénévoles, mais ce n'est pas si mauvais signe que ça, parce que finalement, elles se bagarrent et elles arrivent à faire changer les choses. Pour les autres, celles qui s'inscrivent à long terme dans le cadre de l'aide alimentaire, eh bien forcément, elles vont payer le prix fort de ne pas avoir accès à leurs droits avec des violences qui agissent physiquement et psychologiquement sur elles. Physiquement, on a les études ABENA qui renseignent tous les 4-5 ans, on les reconduit et on a ce constat. Oh, les personnes qui vont à l'aide alimentaire souffrent plus d'obésité, d'hypertension, d'anémie, etc. Donc on le sait depuis une dizaine d'années. Donc là aussi, on charge les structures de l'aide alimentaire. Vous devez donner des plats plus équilibrés. Donc on va vous aider, on va donner des diététiciennes, on va vous financer quelques cours de cuisine. Super, sauf que c'est pas ça le problème. Et c'est même aussi une violence de plus. Le cours de cuisine qui permet de créer du lien social, de partager un repas, c'est super. À l'unanimité, tous les gens aiment ça. Le cours de cuisine qui vient expliquer à des personnes qui n'en ont pas les moyens comment elles doivent manger alors qu'elles ne pourront pas aller s'acheter ces produits. Des cours de cuisine où on apprend à faire un clafoutis aux cerises quand on voit le prix des cerises, et ben en fait, moi, ça m'interpelle. Quoi. Je me dis, ce n'est pas les produits prioritaires qu'ils vont avoir, peut-être dans des milieux ruraux s'ils ramassent, oui, mais pas partout. Quoi. Donc on est dans tout ce système. Et pour moi, l'impact psychologique, il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout neutre. Parce qu'il il vient aussi expliquer pourquoi on est dans cette situation. On n'arrive pas à décoller, à transformer l'essai. C'est que petit à petit, donc moi, dans tout ce que j'observais des personnes pendant 5 ans, dans tout ce que je notais de leurs attitudes, je pouvais en fait décrire un peu ces atteintes psychologiques en voyant qu'elles avaient profondément honte, en fait, d'être là, même si ça se passe très bien, même si elles sont très contentes d'être là, eh bien, il y a quand même toujours toutes ces phrases « Ah, si mon père me voyait, j'en suis arrivée là. » Et une culpabilité, en fait, qui va avec et qui fait que petit à petit, la personne, en fait, elle se dénigre. Et ça, c'est comment réagir et agir là-dessus quand c'est pas une aide ponctuelle, mais ça dure depuis plusieurs années. Des sentiments de honte de mère de famille, de se dire ben voilà, en fait, je suis venue pendant toute une période et puis il se passe quelque chose dans la vie et la situation est tellement précaire qu'on est obligé de revenir. Ben, c'est très dur, en fait, d'avoir l'impression, enfin voilà, de me dire, mais qu'est-ce qu'elles doivent penser de moi, en fait, les dames qui m'inscrivent, que je ne suis pas capable de m'en sortir. Et cette même personne de m'expliquer que son but, d'avoir commencé notre entretien en me disant, ben, moi, je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai que les pauvres, ils ne savent pas faire leurs comptes. Moi, mes comptes, ils sont faits jusqu'en 2025. Et quand elle m'a dit ça, ben, je pense que j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, waouh, cette femme, elle a 3 enfants. Et elle sait que jusqu'en 2025, en fait, elle ne s'en sort pas, quoi. Et d'avoir, en fait, ce sentiment de... Voilà, de honte, de se dire, ben, j'ai le jugement de l'autre, elle-même de me dire, et j'ai pris tant de kilos depuis que je suis dans cette situation-là. Donc oui, c'est pas du tout neutre. Et petit à petit, en fait, on n'ose plus rien revendiquer, parce que cette aide qu'on nous donne, on se dit, ben, si on la perd, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Et comme on l'a vu un petit peu sur tout ce qui se passe au niveau des préconisations légales ou de l'État, enfin, c'est vraiment de dire, d'être dans ce jeu aussi d'inversion de la faute, où ben, au final, si vous êtes en mauvaise santé, si vous avez des problèmes de poids, c'est parce que vous mangez mal. Et d'intérioriser en fait, tout ça avec la nourriture qui est donnée. Pardon ?
Bah, ce n'est pas
bon. Non, on peut le dire comme ça. Donc voilà, du coup, tous ces impacts-là, ils permettent de le définir. Et définir ces violences alimentaires, c'est se dire qu'à un moment donné, on montre en effet qui sont les responsables et on se dit qu'on peut agir contre eux. Parce que tant qu'on ne montre pas ce niveau de responsabilité, comment ça s'organise et quel est l'impact sur les personnes, eh bien finalement, on reste dans un système où on se dit « c'est bien grâce à l'État ». Qui aide et donne des subventions aux associations, eh bien, on répond à la problématique du droit à l'alimentation. Et non, l'aide alimentaire n'est pas le droit à l'alimentation et les organisations n'ont pas du tout les moyens de répondre à ce que devrait être le droit à l'alimentation alors qu'elles en ont un désir profond. Et là aussi, c'est une violence qui est faite aux bénévoles. De trouver l'énergie, malgré tout, de faire tout ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut que leur rendre hommage. Alors que voilà que ils doivent bricoler. Et moi, mon inquiétude à la fin de mon terrain, c'était plus de voir toutes les stratégies pour empêcher les organisations de bricoler, pour encore mieux contrôler comment se passent les distributions. Alors qu'en fait, c'est dans cette économie du bricolage qu'on retrouve l'esprit Coluche et que les personnes arrivaient à mettre encore plus de valeur dans leurs dons. Mettre des fiches, des logiciels et tout ça, c'est écarter aussi plein de personnes qui sont assez allergiques au papier de pouvoir être là en tant que bénévole. Se dire que pour des questions d'hygiène, alors ça peut paraître choquant ce que je dis quand on considère que c'est très très important l'hygiène alimentaire quand on donne à manger. Et moi, je pense que j'ai rencontré que des gens sérieux qui n'ont jamais fait prendre de risque à personne. Mais avant la mise en place de la loi Garot, il y avait moins de contrôle, les récupérations, il y avait parfois plus de produits. Et notamment, il y avait parfois plein de poulets qui étaient récupérés à un moment donné où ça ne pouvait pas être distribué. Ou alors plein de poulets qui récupéraient par la maraude du poulet cru. Hein. Donc, qu'est-ce que faisait la maraude, notamment parce qu'ils avaient la chance d'avoir un cuisinier parmi eux. Les cuisiniers, ils congelaient. Et quand il n'y avait pas assez ou des repas compliqués ou qu'on se retrouvait dans une période un peu de tension, ben voilà, ils sortaient les poulets du congèle et ils les cuisinaient. Et les gens étaient hyper contents parce qu'en effet, le cuisinier savait bien faire la cuisine. Et ça, en fait, c'est interdit. Et ben, ça crée plusieurs choses. Ça veut dire que ce cuisinier, ben, il se retrouve juste à réchauffer des plats, à contrôler des températures. Et qu'on vient nous dire qu'il faut assurer la sécurité des personnes, alors que finalement, on ne leur donne pas assez à manger pour vivre dignement. Et du coup, c'est complètement aberrant, en fait, quand on réfléchit au truc. Mais bon, voilà. Du coup, c'est pour dire aussi que cette liberté qui pouvait être concéder ou qui pouvait arriver, bah, elle peut être mise à mal par tout un tas de normes et par toute une rigueur en fait, qu'on impose, parce qu'il y a beaucoup de contrôles maintenant au niveau des structures d'aide alimentaire, des services vétérinaires qui viennent contrôler les frigos, s'assurer que tout est bien fait, etc. Et c'est vrai que ce contrôle, on aimerait bien le mettre et utiliser ses fonds à autre chose, quoi.
Bon, bah là, on est tombé vraiment dans le fond de la souffrance et de la violence. Alors peut-être que il y a peut-être pas de bricolage ou à faire, mais il y a peut-être justement des projets un peu plus des projets politiques et pas des alternatives, des vrais projets politiques qui pourraient peut-être permettre de reprendre le contrôle sur cette aide alimentaire, mais aussi sur peut-être la façon dont on produit, sur toute la chaîne. Et donc dans la dernière partie du livre, tu nous parles de sécurité sociale de l'alimentation, qui est très différent de la sécurité alimentaire. Là, tout le monde est d'accord que la sécurité alimentaire, si on ne l'a pas, ben, on a des émeutes de la faim, on a des quoi, il y a des vrais problèmes. Tandis qu'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet politique tout autre qui essaye de peut-être que tu peux nous en parler ou.
Ouais, ben après, je pense que ça serait intéressant de vous laisser aussi la parole là-dessus puisque à Toulouse c'est en œuvre, mais moi, ce que je trouve aussi important de rappeler et de situer, c'est ces engagements, que ce soit des bénévoles de l'aide alimentaire ou des personnes qui sont engagées pour un autre système agricole. Je vous l'ai dit au départ, pour moi, en fait, c'est vraiment des résistances. Et je ne suis pas certaine qu'il y a 3-4 ans, on aurait pu parler de sécurité sociale de l'alimentation comme on en parle aujourd'hui, sans que ça fasse tiquer, etc. Mais voilà, je me dis, maintenant, il se passe pas mal de choses. On est en train de réfléchir, en fait, et de peut-être mieux montrer quelles sont les conséquences, en fait, de ce système agro-industriel. Et si, historiquement, on ne resitue pas qu'il y a des résistances depuis 1945, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit pour permettre aux personnes d'accéder à l'alimentation, eh ben, c'est un peu comme si on partait de zéro. On ne part pas de rien. On a fait tout ce travail et du coup, grâce à tout ce travail qu'on a fait, grâce aux compétences qu'on a chacun, chacune dans son domaine, oui, peut-être que c'est le moment d'aller vers un autre projet politique qui permette de faire que oui, réellement, on va lutter contre la pauvreté et on va agir pour qu'elle soit éradiquée, que oui, vraiment, on va transformer le système agricole pour que ceux qui produisent, ils en vivent dignement. Et finalement, pour moi, le gage de cette réussite, c'est aussi cette rencontre et cette mise en dialogue et non pas en accusation. Les responsables, en fait, ils sont politiques, ils sont très protégés, mais ils ont fait des choix et des choix qui étaient à l'encontre souvent du bien-être de la population. Et je conçois qu'en 1945, en fait, quand la sécurité sociale de santé a été pensée, il n'y avait pas forcément à se prémunir du risque lié à l'alimentation qui s'est, comment dire, intensifié avec l'omniscience de l'agro-industrie, avec la destruction du monde paysan. Et du coup, on est en train de dire non, on a vraiment besoin de paysans sur nos territoires pour plein de raisons, pour ramener de la vitalité. Et le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il vient non pas répondre de manière aberrante à deux problèmes, comme on l'a vu avec le gaspillage alimentaire et l'aide alimentaire, mais il vient proposer de rétablir quelque chose de vivable et désirable au niveau du système alimentaire. Aujourd'hui, on est sur une chaîne qui est malade au deux bouts. Et là, ce qu'on se dit, c'est que grâce à une sécurité sociale de l'alimentation, on peut agir à la fois pour mettre en sécurité tout un tas de personnes qui aujourd'hui sont dans une précarité alimentaire intense et ça, c'est inacceptable. On a les moyens de faire autrement. Mais on peut aussi transformer notre système agricole. Et ça, c'est aussi une autre urgence à laquelle il faut répondre. Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, elle se base sur les trois mêmes piliers que la sécurité sociale de santé, qui sont l'universalité. Je vous ai parlé en fait de l'humiliation qui peut être ressentie par les personnes à devoir aller demander de l'aide. Ben là, plus personne n'a à demander de l'aide. Parce qu'on est citoyen français, on a le droit d'avoir 100, 150 euros. Est-ce que ce sera 144,30 €? Parce qu'on n'aime bien pas faire de compte-rond. Mais du coup, voilà, on aura une somme dédiée par personne. Quelle que soit la personne, et pas forcément par personne française, mais par personne vivant en France. C'est ça le projet. Deuxième pilier, c'est la cotisation. C'est-à-dire que cet argent, et pour le moment, les réflexions sont en cours. On essaye même d'enrichir le groupe avec des compétences d'économiste. Donc, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à rejoindre les groupes de travail sur la sécurité sociale de l'alimentation. Mais en gros, l'idée, c'est pas de se baser que la cotisation, elle soit liée à notre force productive de travail. C'est-à-dire que non, on ne coûte pas de l'argent, mais oui, on produit de la richesse. Et cette richesse qu'on produit, on peut la socialiser, la mettre en commun pour se dire qu'on transforme le système agricole et qu'on permet à chacun et chacune de se nourrir dignement. Donc c'est à ça que sert la cotisation. Et le conventionnement, c'est la grosse partie, je pense, de démocratie alimentaire dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation, qui vient dire, ben là, sur notre alimentation, on a confié l'homologation de tel truc à plein de méga-organismes, à des super experts. Mais en fait, ça ne va pas du tout, parce qu'on ne sait plus du tout ce qu'il y a dans les produits et qu'on ne comprend même pas comment il faut lire les étiquettes. Donc là, on se réapproprie aussi ces compétences et on crée, comme c'était fait au niveau de la création des caisses de santé en 1945, on crée en fait des groupes de citoyens qui vont pouvoir décider pourquoi on conventionne et quels produits on conventionne. Donc ça, ce sont vraiment des piliers importants pour rétablir de la démocratie alimentaire. Et avant de vous laisser la parole sur l'expérimentation à Toulouse, je conclurai là-dessus, c'est qu'il me semble qu'on est dans un tel moment de déni de démocratie que si on trouve une porte qui est la démocratie alimentaire pour arriver à réhabituer les gens à agir dans un monde où la démocratie a toute sa place, eh ben c'est pas si mal aussi comme perspective et comme projet, et que ça vient répondre et finalement anoblir tout le travail et toute la résistance que les uns les autres ont depuis plusieurs décennies maintenant.
Alors, tu as bien expliqué en fait le projet politique de socialiser l'alimentation, hein, donc basé sur les trois piliers donc tu as rappelé qui étaient l'universalité, la cotisation et le conventionnement. Donc voilà, ça c'est l'exemple un peu de carte vitale de l'alimentation qu'on pourrait avoir pour aller chez son commerçant qui a été conventionné par un groupe de citoyens parce qu'on a considérer que son travail est justement rémunéré, que toute la chaîne de production agricole a été aussi justement rémunérée, que les conditions même au niveau écologique des terres, on est sur une agriculture durable. Et donc, on pourrait utiliser cette carte chez des producteurs agréés. Alors, 150 euros, ça ne couvre pas tous nos besoins alimentaires, hein. Mais c'est en tout cas une partie qui permet de sortir de la d'une misère alimentaire en tout cas. Et peut-être que alors ça c'est un projet politique, mais évidemment vous sentez bien que actuellement on est plutôt en train de dans la rue pour essayer de protéger une sécurité sociale qui est en train de se faire quand même sacrément amochée. Donc c'est une des branches, la retraite, hein, une des cinq branches de la ou 6 branches de la sécurité sociale. Donc l'alimentaire, la sécurité sociale de l'alimentaire, ça serait une cinquième branche de la sécurité. Hein. Actuellement, il y a la santé, la retraite, la famille, les accidents du travail. Et bon, il y a la dépendance qui est une nouvelle, mais bon, qui est plus petite. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait quand même ? Parce qu'on ne sent pas... On sent pas que ça soit fleuri dans la tête de nos dirigeants. Et l'idée, c'est de se dire que avant 45, en fait, la nouveauté en 1945, c'était pas la sécurité sociale de l'alimentation, c'était pas la sécurité sociale, c'était le régime général. C'était que avant ça, il y avait déjà des mutuelles de l'alimentation, des mutuelles de santé. Et ce qu'a fait en fait en 45, c'est qu'il a unifié toutes ces mutuelles et généralisé pour tout le monde, pour en tout cas pour la plupart des travailleurs, cette mutuelle dans un régime général. Et donc l'idée, c'est de dire, ben, en attendant 45, hein, et ben, on peut essayer de commencer à mettre en œuvre des mutuelles alimentaires citoyennes sur le territoire. Alors, il y a plein d'initiatives qui fleurissent justement grâce au collectif qui est regroupé dans un collectif national. Donc il y a des caisses qui commencent à se former à Montpellier, à Toulouse, il y en a 4, à Bordeaux, dans le Vaucluse, en Alsace, dans un petit peu partout. Et l'idée, c'est d'expérimenter, voir ce qui marche, ce qui marche pas, essayer de... Alors on perd évidemment l'universalité, qui est un des trois piliers, vu que on peut pas donc là ça serait l'idée, ça serait de c'était des cotisations volontaires, donc ça serait des l'idée, c'est de faire des cotisations volontaires. Mais alors après, on doit décider entre nous, ben, comment déjà on fonctionne, et aussi ben et c'est notamment on doit monter en compétences, parce que bon, si on connaît pas les violences alimentaires, ben, est-ce qu'on peut prendre des décisions de façon éclairée ? Si on ne connaît pas la souffrance aussi du monde agricole, si on ne connaît pas les enjeux environnementaux, ben, ça va être compliqué de définir des règles ou des ensembles démocratiques. Hein, c'est-à-dire que donc on pourrait faire des conventions citoyennes un peu sur tous les pour monter en compétences. Hein, mais d'ailleurs dans les conventions citoyennes, et un des prérequis, c'est d'abord de se former avant de pouvoir prendre une décision. Et donc, voilà. Donc, sur Toulouse, grâce notamment, je vois, à Sarah Cohen, qui est juste au bout, qui coordonne, en fait, le projet Kessalim sur Toulouse. Donc, Kessalim, c'est... Alors, peut-être que je peux te laisser la parole, ou... Non. Je check. Alors, donc en fait, il y a une idée de monter donc 4 caisses. Il y a une volonté des différents quartiers de Toulouse de monter donc 4 caisses dans 4 quartiers différents, un dans le nord, un dans le sud, un aussi à Ramonville et un au Pradette à l'ouest. Et nous, plutôt, moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Mama, qui expérimente justement une des 4 caisses, qui est plutôt au sud-est de Toulouse. Et donc l'idée, ben, c'est on se donne une année pour à la fois, première phase, rassembler un maximum de personnes qui seraient intéressées à participer à cette caisse, et que la diversité soit la plus grande dans les personnes qui viendront, que ce ne soit pas que des personnes déjà conscientisées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ben, c'est monter en compétences. Une deuxième phase. Troisième phase, ça serait de définir les règles. Est-ce qu'on fait une caisse commune à Toulouse, ou est-ce qu'on commence à faire 4 caisses différentes parce que voilà, on a des populations différentes, etc. Bien que dans l'idée, c'est à un moment donné de fusionner tout, hein, mais peut-être que dans un premier temps, c'est peut-être plus simple parce que voilà, on ne fait pas forcément confiance. Quoi, il y a une confiance à avoir entre ce groupe-là. Et l'idée, ça serait que on avance sur ces trois thèmes, ces trois phases-là avant l'année prochaine, et qu'on monte vraiment les cotisations et qu'on monte fonctionnellement la caisse l'année prochaine. Voilà.
Bah, bonsoir, merci de me donner la parole. Donc effectivement, l'idée c'est de monter donc, 4 collectifs de citoyens donc, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest de Toulouse. Et à partir de là, comme le disait Alex, de monter en compétence, donc, c'est-à-dire acquérir les connaissances sur les enjeux du système alimentaire, que ce soit l'impact sur la santé, l'impact sur les travailleurs, sur l'environnement, etc., pour pouvoir définir les critères de conventionnement dont parlait Bénédicte tout à l'heure, donc c'est-à-dire quelles sont les conditions sociales et environnementales de production, de transformation et de distribution qu'on souhaite pour notre alimentation, ce qui va nous permettre de choisir des professionnels de l'alimentation, donc des producteurs, des artisans, des magasins, des restaurateurs, etc., à Toulouse et autour de Toulouse, qui répondent à ces critères et qui seront conventionnés par là où les caisses. Et donc, effectivement, en fonction de comment ça avance dans chacun des quartiers, soit on commencera par faire 4 caisses d'alimentation, c'est-à-dire 4 endroits, 4 entités dans lesquelles les gens vont cotiser selon leurs moyens, selon une grille de cotisation qui aura été définie démocratiquement par les personnes, et vont pouvoir utiliser un budget alimentaire qui sera la moyenne de ces cotisations, qui sera le même pour tout le monde, auprès du réseau de professionnels qu'ils auront choisi. Et donc ça, voilà, ça peut fonctionner dans chacun des territoires ou si on est tous en phase à peu près au même moment dans chacun des territoires, réfléchis de manière collective et commune à l'échelle de Toulouse, ce qui sera de toutes les manières l'objectif final, quoi. Et enfin, bien sûr, là on va commencer avec des petits groupes parce que de toutes les manières c'est difficile aussi de mobiliser des gens pour faire des choses, hein. On va pas se le cacher. Mais donc, on va commencer par des petits groupes. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment que ça devienne une mutuelle alimentaire, une mutuelle d'alimentation à Toulouse, et qu'il y ait des milliers de personnes qui puissent cotiser, recevoir un budget alimentaire et commencer à créer, voilà, toutes ces caisses de sécurité sociale de l'alimentation en France pour espérer un jour pouvoir les unifier et créer la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà le projet. Et alors, bien sûr, j'ai oublié d'imprimer des flyers, comme d'hab. Mais j'en ai quand même des en noir et blanc, pas très beaux, et des pour la caisse du Nord. Donc, si ça vous intéresse, ouais, je peux vous les donner. Et bientôt, on aura un site internet et il y aura des informations dessus. Donc voilà.
Peut-être qu'on peut passer aux questions, quoi, parce que je pense qu'elles sont nombreuses.
Oui, bonsoir. En premier lieu, j'écoutais très attentivement ce que vous dites. C'est pas fait pour les gens qui n'ont pas d'argent. Non. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas cotiser. C'est simple. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Là où j'habite, ils font les poubelles. Pour manger. Donc, il faut en parler.
Si je peux répondre après.
Non, mais voilà. Ensuite, quand vous dites qu'il faut des lois... Vous savez, je ne sais pas comment le traduire en français, en Espagne, on vous dit « echa la ley, echa la trampa ». C'est-à-dire, dès qu'on a fait la loi, il y a le piège avec. Donc, il ne faut pas compter sur les lois pour arranger quoi que ce soit. Ensuite, le projet que vous présentez, n'oubliez pas que vous allez avoir en face la FNSA, Arnaud, Pinault et tous ses copains, et vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Hein, parce que vous allez les avoir en face. Quant au supermarché, non seulement ils ne font plus le tri puisqu'ils ont les bénévoles et ils ne les payent pas pour faire ce boulot-là alors que leurs ouvriers, ils les payaient. Et en plus, ils ont du pognon, gagnant deux fois. Personne n'en parle. Quand on vous dit « on a honte », non, non, mais personne, je dis en général, c'est pas, on ne le dit pas. Ensuite, quand vous dites que les gens ont honte, moi, je suis passée par les restaurants du cœur, donc je peux en parler. Non seulement je n'ai pas honte, mais après réflexion, je me dis, arrêtons toutes les aides. La famine, on va y aller à la rue. Et là, ça ne va pas être les back blocs, ça va être les vieux dont je fais partie. C'est le seul moyen de faire tomber ces gens, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Essayez tous les moyens cool, vous ne les aurez pas. Ils sont bien plus forts que vous, ils ont les télés, ils ont tous les moyens de communication. Nous, on a juste notre petite gueule.
Merci pour cette intervention.
Bah oui, mais merci beaucoup pour le témoignage. Et c'est important d'avoir ces réactions aussi. Et ça fait partie de ce qui donne à réfléchir. Et après, Sarah pourra rassurer sur comment est pensée la sécurité sociale de l'alimentation. Mais non, la cotisation, en fait, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est comme votre carte vitale. Vous ne vous posez pas la question de comment elle est chargée. Vous allez chez le médecin et vous ne payez pas de frais de santé. Je voudrais peut-être parler au passé. Voilà. Et là, c'est aussi ce système-là où on ne se pose pas la question. Ça ne va rien retirer aux personnes qui ne peuvent pas mettre au panier. Rien. C'est vraiment leur donner en plus. Parce que tu disais, voilà, 150 euros, ça ne couvre pas tout. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas 150 euros par mois pour manger. Donc, du coup, voilà, ça permet de faire pas mal et autrement, dans cette façon de faire autrement. Et c'est vrai qu'après le conventionnement, ça donne aussi la main sur la fixation de prix juste. Parce qu'aujourd'hui, on a des produits on ne sait même plus la valeur de cet aliment. Est-ce qu'il doit valoir si cher? Est-ce qu'il devrait valoir moins cher? Enfin voilà, on n'a pas la main là-dessus. Donc c'est vraiment un projet de démocratie où il y aura besoin de tout le monde et de contributions comme la vôtre pour arriver au plus juste à faire cette proposition-là, enfin à aller dans des propositions très concrètes et très réalistes sur le terrain. Parce qu'en effet, de sa place, on ne peut pas penser à la place de l'autre. Donc, c'est ça toute la force, c'est qu'il faut qu'on se mette tous autour de la même table, là où on a pris l'habitude, des fois, de ne même plus être à table. Donc, voilà, il faut... Moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous.
Cette relation que vous dites entre les personnes qui sont les bénévoles et ceux qui reçoivent, on est toujours dans cette relation. En fait, ceux qui reçoivent, pourquoi ils ne participent pas? Pourquoi? Parce que, effectivement, même si on ne peut pas payer, si on est soi-même acteur, je pense un peu au système Emmaüs, hein.
Oui. Alors, dans le livre, je parle en fait de cette catégorie de personnes qui sont les bénévoles bénéficiaires et qui ont un rôle très particulier. Après, dans les différentes personnes qui ont recours, il y en a qui ne travaillent pas, mais qui n'ont pas de temps, en fait. Enfin, voilà, il y a des mères de famille qui ont plusieurs enfants. C'est pas possible. Ne serait-ce que de venir au bon moment, en fait. Voilà, c'est des fois très compliqué d'être prêt à l'heure quand on a déposé tout le monde, etc. Après, il y a aussi je pense que c'est là aussi où on voit toute l'importance et tout le rôle que joue la violence alimentaire. C'est que on se sent incapable. Il y a en effet quelques travailleurs pauvres, il y a tout ça, mais on se dit que on est très mal à l'aise en fait d'être. Voilà, il y a des gens qui ont la personnalité suffisante pour être dans cet entre-deux, mais cet entre-deux, il n'est pas facile. Parce qu'en fait, on se retrouve au quotidien avec des personnes qui vont avoir toujours une autre parole, parce qu'elles ont une autre réalité de vie, parce qu'elles, ben voilà, elles sortent des restos et elles vont peut-être faire des courses dans des endroits ou des marchés où l'alimentation est très chère. Donc ça crée des écarts qui font aussi que c'est très compliqué de faire groupe. Un groupe de bénévoles, il est souvent très très soudé. Voilà, donc il y a quelques bénévoles bénéficiaires, moi j'en ai rencontré où ça marche super bien, et après il y a des associations qui ne veulent pas. Il y a des associations qui ne sont basées que sur ça, comme la Fondation Abbé Pierre ou Emmaüs, et c'est encore autre chose. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que toutes ces structures-là, elles sont toutes aussi importantes. Il n'y en a pas une qui aurait une solution. C'est que chaque personne, à un moment donné, va dans la structure qui répond le mieux à ce dont elle a besoin. Et parfois, son besoin, c'est juste de venir, de prendre et de repartir. Et parfois, son besoin, c'est de participer à autre chose, de s'inscrire à des ateliers. Et donc, là, j'en ai pas parlé, mais ce retour, il est possible, pas forcément en devenant bénévole, mais en participant à des ateliers. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'ateliers tricot, par exemple, où les dames vont faire, c'est souvent des dames, les dames vont faire des colis pour les mamans qui vont avoir des enfants et elles font de la layette. Et donc, elles passent des après-midi à tricoter et à confectionner ces choses-là. Donc, il y a aussi tout ça qui existe, en effet.
Il y a surtout le manque de démocratie. Le manque de démocratie.
La participation, oui, oui, oui.
Que vous avez une population, vous avez d'un côté l'organisation et de l'autre côté les gens qui reçoivent. Mmh. Donc, ce qu'il faudrait, c'est... Enfin, je suis tout à fait extérieure à ça, c'est faire que les gens... se rendent compte de leur situation et prennent cette situation en main, ce que disait ma camarade également, hein, mon ami, hein, bon, donc de devenir acteur. De devenir acteur.
Mais c'est pas facile.
Hein, mais je comprends bien que c'est pas facile et rien n'est fait pour ça. Parce qu'effectivement, c'est pas fait pour ça. C'est fait que pour justement qu'il y ait une partie de population qui soit dans cette situation, hein, qu'on peut maîtriser parce qu'on leur donne à manger. Et donc,
ils ferment leur gueule, hein, en parlant voilà. Clair.
On se tait. Il n'y a pas de véritable démocratie parce qu'on est toujours dans le truc de un donne et l'autre reçoit. Et c'est également dans la société en général.
Oui, hein. Oui. Après, Moïse, il disait le don ne peut pas la justice. Et ça, c'est vrai, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire plein de choses dans le cadre de l'aide, du don, etc. Mais cette justice alimentaire et sortir les personnes de la précarité, c'est pas là que c'est possible. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Et c'est pour ça que ça peut être un temps de résistance et que moi, j'en suis arrivée à cette analyse de proposer autre chose. Parce que oui, j'ai tourné ça pas mal dans ma tête, ouais.
Vous avez fait une étude en région parisienne et une autre étude dans une autre... Je ne sais plus ce que vous avez dit.
Dans le sud-est de la...
Voilà. Quelle est la différence entre ces deux études et qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Ou est-ce que c'est le même contexte ou c'est différent? Ouais.
Non, c'est différent, je dirais. J'en donnerai deux de différences flagrantes. La première, c'est sur l'approvisionnement en produits frais en zone rurale. Voilà, la proposition de fruits et légumes frais, c'est complètement autre chose. J'ai trouvé que les quantités étaient bien pour les gens et c'était des produits tout à fait présentables. On ne passait pas par la ramasse et le tri, en tout cas là où j'étais, sur ce centre-là. Voilà, ils avaient des systèmes, même de dons directs d'agriculteurs, où c'était bien. Donc ça faisait... Moi, comme souvent, les fruits et légumes sont un des principaux problèmes en zone urbaine. Voilà, pour moi, c'était flagrant. Et ensuite, autre problème qu'il y a en zone urbaine, c'est qu'il y a souvent le manque de bénévoles. Et c'est toujours les mêmes, etc. Et là, j'étais dans un centre où c'était beaucoup trop. Donc voilà, la personne, quand elle venait, elle était entourée de trois. Je trouvais que c'était impressionnant comme dispositif, mais chaque bénévole avait son rôle. Voilà, donc du coup, oui, ça peut fonctionner autrement... et puis après, on retrouve voilà, des grands axes. Mais finalement, dans le lien qui se tisse aussi, la différence, c'est que tout le monde se connaît. Donc, ça peut être plus dur pour certaines personnes de taper à la porte qu'en milieu urbain, finalement. Voilà, on ne connaît pas forcément et du coup, ce n'est pas trop grave, quoi. Donc, ouais, y a ces trois différences principales qu'on peut avoir... sur les deux lieux. Et après, au niveau des conséquences, finalement, ça se rejoint. C'est quand même les mêmes conséquences, même si on est dans ces configurations un peu différentes.
Bonsoir. Donc, j'avais une question. Ce projet d'aide alimentaire et notamment les restaurants du cœur lancés par Coluche, tout ça, c'était vraiment une belle initiative et tout ça. Et là, on a vu que les industriels, comme ils font dans tous les domaines, dès qu'ils mettent leurs mains dedans, ça pervertit le projet, tout ça. Et donc, deux questions. Comment faire pour leur sortir les mains de cet alimentaire pour plus que ce soit une variable d'ajustement? Et la même chose pour cette caisse d'aide alimentaire future, quoi. Comment les empêcher de mettre les mains dans cette histoire, quoi?
Je pense que la réponse, elle est la même aux deux questions. Enfin, ça va par la socialisation de l'alimentation. On sort l'alimentation du marché, en fait. Et du coup, grâce aux dérives qu'il y a eu sur la sécurité sociale de santé, On sait aussi qui est-ce qu'il ne faut pas faire rentrer, à quels endroits et à quel moment. Normalement, on a dû apprendre. Donc, ça sera un projet résilient par rapport à la sécurité sociale de santé, en effet.
Oui, parce que Leclerc ou Carrefour seraient tout à fait d'accord qu'on solvabilise leurs clients en leur donnant 150 euros. Et donc, en effet, il y a un écueil très dangereux, en effet, c'est qu'ils puissent récupérer ça. Et c'est vrai que l'industrie du médicament est ultra capitaliste. Et je ne sais pas combien elle récupère de l'argent de la Sécu, mais c'est voilà, on a réussi à sortir du capitalisme, en tout cas une partie. Mais voilà, c'est un des premiers, quoi, l'écueil du marché du médicament, quoi, qui est vraiment ultra, quoi, qui est certainement un des milieux les plus capitalistes qui soit. En fait, l'idée, c'est aussi c'est de se dire que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Il faut essayer. Quoi. Je trouve que l'idée d'essayer de faire de la démocratie, d'essayer, on n'a pas le choix. Là. De toute façon, on est acculé de toute façon vers une urgence à la fois sociale, à la fois écologique, à la fois. Donc. Bon, faut y aller, quoi. Et après, on va essayer de faire que ça marche. Et voilà. Après, il y a pas l'histoire n'est pas écrite. Hein. Et mais je pense que au-delà de ça, je pense que il y avait un slogan, moi j'aimais bien chez les Gilets jaunes, c'était la démocratie. Et si on essayait. Hein. Et là, on a une occasion d'essayer. Et après, on va peut-être se planter. Faut essayer, quoi. On n'a pas le choix. Et j'espère que ça marchera. Alors, je ne sais pas si...
Oui, je veux bien compléter la réponse avec la question aussi de l'éducation populaire et de l'acquisition des connaissances. Parce qu'effectivement, c'est par la démocratie qu'on peut... éloigner un certain nombre de prédateurs, on va dire. Mais une démocratie... qui est porté par des gens qui ont les connaissances nécessaires aussi pour désirer un système alimentaire qui soit durable et qui permette de sortir effectivement l'alimentation du système capitaliste. Parce que l'idée, c'est quand même que ce soit les personnes qui définissent leurs critères pour leur alimentation. Donc on pourrait se dire qu'ils pourraient décider que Leclerc soit conventionné parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Mais nous, ce à quoi on croit, et aussi on se base sur des expériences telles que la Convention citoyenne pour le climat, c'est que des personnes avec des bonnes informations vont désirer un système alimentaire qui est durable. Donc on part pas non plus de rien.
Merci d'abord pour votre présentation et la qualité du travail et la clarté avec laquelle vous exprimez tout ça. Pour continuer un petit peu sur le beau projet de sécurité sociale de l'alimentation, et de ce qu'on vient de dire là à l'instant, il me semble que moi, je suis tout à fait convaincu et converti, on va dire. Mais il me semble qu'il y a un enjeu important, c'est celui de l'auto-organisation, évidemment, des habitants, des citoyens sur des bassins de vie, des territoires. Et en l'occurrence, là, l'exemple, je trouve intéressant de Carrefour ou de Leclerc, qui entrerait dans le jeu. Comment on fait si il n'y a qu'un magasin Carrefour et Leclerc susceptible de servir un petit peu de base d'appui à cette sécurité sociale de l'alimentation, à cette caisse ? Est-ce qu'on l'éjecte quand même parce qu'on n'en veut pas ? Est-ce qu'on le pousse à y rentrer mais à nos conditions ? Ou est-ce qu'on invente de nouveaux lieux ? Moi, je militerai un peu pour ça, mais ce n'est pas évident. Et ça pose aussi du coup la question, depuis là, du rôle des collectivités publiques et du rôle des mairies, etc. Et pour faire lien avec ça, tout à l'heure, Sarah, tu parlais de la cotisation, chacun selon ses besoins et chacun selon ses moyens. Voilà, la bonne formule. Mais quid aussi, du coup, à cet instant où on expérimente du rôle des collectivités, je le repose là aussi, est-ce qu'elles sont sollicitées pour abonder aux côtés des citoyens ?
Effectivement, on fait des demandes de subventions publiques pour abonder ce qu'on va appeler le capital des caisses, pour justement venir aussi combler le delta entre les petites cotisations et les grandes cotisations et que permettre d'ouvrir ces caisses d'alimentation à un maximum de personnes en situation de précarité sans faire reposer voilà, le poids sur les personnes qui vont cotiser plus que ce qu'elles vont recevoir et surtout pour assurer la pérennité des dispositifs dans un premier temps. Après, on pense qu'il y a un rôle effectivement des collectivités et de l'État de mettre de l'argent dans ces dispositifs-là parce qu'on expérimente des choses qui visent à répondre à normalement des compétences des collectivités ou de l'État. Mais on voudrait aussi ne pas être complètement dépendant des subventions. Et donc on cherche aussi à d'autres moyens de, voilà, de faire fonctionner économiquement ces caisses d'alimentation, notamment auprès de ce qu'on pourrait faire avec les entreprises. Comment des entreprises pourraient mettre de l'argent pour leurs employés, par exemple. Un euro dépensé dans la caisse d'alimentation, ça serait un euro payé par l'entreprise ou ce genre de choses. Et puis peut-être sur des dons, et puis peut-être sur des choses auxquelles on n'a pas encore pensé. Mais, voilà.
Et sur les entreprises, justement, il y a déjà en fait une sécurité sociale de l'alimentation qui a été dévoyée. C'est le resto d'entreprise ou le ticket resto. C'est-à-dire que là, justement, on a bien vraiment un système de cotisation, quoi. On a pris sur chaque employé est obligé de fournir une cantine si on est plus d'un certain nombre. Et donc, il y a vraiment une notion d'une universalité dans l'entreprise. Pour tout le monde la même somme mais le problème c'est qu'après moi c'est Sodexo ou Elior donc c'est des gros capitalistes hein. D'ailleurs c'est des fonds de pension d'ailleurs hein. Donc c'est tu crois manger mais c'est toi qui mange qui sont en train de manger donc mais il y a un moyen parce que théoriquement c'est les syndicats par exemple qui décident du conventionnement de moi je suis à la CGT et justement théoriquement on décide de qui on choisit comme prestataire donc y aurait moyen de se dire on prend un prestataire d'une on monte une structure alimentaire qui va s'approvisionner que chez des producteurs de la région ou avec des conditions et donc oui ça pourrait quoi. Il y a peut-être aussi des trucs à gratter de ce côté-là.
Ah. Mais peut-être pour compléter, c'est aussi c'est vertigineux ce projet parce que on doit se projeter dans un monde qu'on ne connaît pas. Clairement, à quoi pourraient ressembler des supermarchés si finalement ceux qui travaillent au sein du supermarché en sont... les patrons ou en fait récupèrent aussi ces unités-là. Si on réfléchit toutes ces formes-là, ça va pas se faire en un jour. Hein. Mais du coup, ça transforme complètement les choses. Ça transforme aussi complètement les choses de se dire, mais de toute façon, cette alimentation qu'on souhaite pour tout le monde, si on veut la produire, aujourd'hui, on en est incapable. On a 390 000 paysans, beaucoup de départs à la retraite à envisager. Et finalement, il nous faut au moins 1 million, mais en réalité plutôt 1,5 million de personnes qui vont travailler dans l'agriculture, qu'il va falloir loger. Donc il y a tout ce paysage qui change. Donc la grande surface, à ce moment-là, dans un tel paysage qui se reconstruit, elle va peut-être d'elle-même plus avoir de nécessité d'être en tant que telle. Et c'est ça, je pense aussi, qu'il faut s'autoriser à penser. C'est pas vouloir caler ce modèle-là à la structure capitaliste qu'on connaît. En fait, elles ne marchent pas ensemble, donc ça ne s'adaptera pas clairement. Donc on doit imaginer comment on va pouvoir avoir les meilleurs outils qui soient pour nous. c'est vraiment ça, la socialisation de l'alimentation. Et c'est aussi ça qui est plutôt joyeux. C'est de se dire que finalement, les personnes qui peuvent être inquiètes aujourd'hui parce qu'elles travaillent dans l'agro-industrie, on leur dit non, en fait, on a besoin de vous, on a besoin de vos compétences. Ce n'est pas un projet dans lequel on est en train de choisir d'opposer en fait un clan contre un autre. Pas du tout. C'est une société dans laquelle on est bien conscient qu'on a besoin des compétences de tout le monde, mais qu'on n'a plus envie de donner autant d'argent à quelques-uns sur le dos des autres. Voilà, c'est un moyen aussi de mieux répartir. Je ne sais pas s'il y a la revue Socialterre, je ne me rappelle pas du titre. C'est... Non, ben, la nouvelle, c'est qu'il faut manger les riches pour... Il faut manger les riches. Bon, je n'ai pas encore lu, il vient de sortir, mais voilà, on a eu Cet air qui se défend, qui était une super revue de Socialterre. Et là, Il faut manger les riches. Je pense qu'on a aussi de quoi se nourrir pour arriver à penser la réflexion, pour sortir un petit peu de ce moule dans lequel on nous a mis. On a l'habitude d'y être sage. Et aujourd'hui, y être sage, c'est compromettre la vie de certaines personnes. Donc peut-être que c'est nécessaire et indispensable de faire autrement. Exactement.
Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à Alexandre Gondron pour la modération. Merci à... Merci à Bénédicte Bonzi pour son travail et cette présentation. Et bonne soirée.
C'était Rencontre avec Bénédicte Bonzi autour de son livre La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires, paru aux éditions du Seuil.
Radio Livre d'Or.